L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion qui se penche sur nos poubelles, car nous sommes en pleine semaine européenne de réduction des déchets. Ceci dit, la question des déchets doit nous concerner toute l'année, on le sait. Derrière cette question, il y en a bien d'autres. Celle de ce que nous consommons, celle des matières premières qui sont extraites ou produites dans le cas de l'agriculture pour obtenir les produits que nous achetons. Et puis il y a aussi la question de l'énergie dépensée à fabriquer tout ça, mais aussi ensuite à se débarrasser de ces déchets. Il y a aussi la question des pollutions. On parle souvent de ces déchets plastiques qui ont fini dans nos océans et au final dans nos estomacs. Et que nous, si nous consommons des poissons en tout cas. Il y a les pollutions des déchets qu'on a maltraités, qui s'incrustent dans le sol pour des années, des siècles, voire des millénaires. Il y a les déchets dont on ne sait pas trop quoi faire, qu'on envoie parfois dans des pays pauvres pour qu'ils s'en occupent. Mais comment au juste? Bon, bref, derrière les déchets, il y a encore et toujours de la politique, de la géopolitique, de l'économie, de l'écologie. Avec nous pour en discuter à l'échelle du Finistère, un organisme départemental déjà assez ancien, le CIMED. Vincent Garnier en est le responsable des services. Bonjour.
Bonjour.
Ça s'appelle toujours le CIMED.
Ça s'appelle toujours le CIMED, ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs CIMED?
Alors CIMED, c'est toute une histoire en fait. Ça a 20 ans aujourd'hui. Ça a été créé par le département à l'époque pour régler la problématique de l'enfouissement des déchets. Parce que le Finistère, et même globalement à l'échelle nationale, en fait, il y avait à l'époque, jusque dans les années 90, une décharge par commune et non autorisée. C'était l'époque. Hein,
sauvage, comme on disait.
Ouais, sauvage. Qu'ont tout été réhabilités depuis. Et du coup, c'est posé la question, comme on arrête les décharges sauvages, est-ce qu'on peut en faire des réglementés? Et ça a été la première mission du CIMED en 2001. Et depuis, le CIMED a beaucoup évolué, mais n'a pas changé de nom. Voilà, ouais. Ça veut dire syndicat mixte d'élimination des déchets. Mais maintenant, nous, on l'appelle plutôt gérons durablement nos déchets. Donc, comment on les réduire, comment mieux les recycler. Et au final, ce qui reste, qu'est-ce qu'on peut en faire?
Mais c'est toujours un organisme financé par le conseil départemental ou vous êtes indépendant un peu?
Alors, c'est un syndicat indépendant les membres du CIMED, en fait, ce sont l'ensemble des collectivités du Finistère. Donc, par exemple, ici, c'est la communauté de communes de Crozon et le Maritime. Mais l'ensemble des collectivités. Et le département n'est plus membre du syndicat depuis la loi NOTRe en 2017, qui a re-réparti les fonctions. Et maintenant, c'est la région qui s'occupe des déchets. Le département n'a plus de compétences. Et le CIMED est un syndicat autonome. C'est vraiment les élus des communautés de communes qui votent les actions et les budgets.
Ouais, parce que ce sont les communautés de communes qui ont récupéré cette compétence des déchets. Enfin, il y a pratiquement plus de communes toutes seules qui gèrent ces déchets.
Non, à part deux îles que sont Ouessant et Saint, qui ne sont pas en EPCI, en collectivité. Mais sinon, c'est vraiment les collectivités qui gèrent aujourd'hui les communautés de communes.
Alors, que ne fait pas du coup le CIMED?
Alors, le CIMED, sa principale mission, c'est un outil d'échange entre l'ensemble des collectivités à compétences collecte et traitement du Finistère pour mutualiser et parce qu'on a tous les mêmes problématiques. Chaque collectivité, ce sont les mêmes déchets qui sont produits. Il y a des collectes d'ordures ménagères, des collectes de recyclage, des centres de tri, des déchetteries. Et comment est-ce qu'on peut, face à la forte évolution tant des pratiques de consommation et aussi réglementaires, comment est-ce qu'on peut ensemble faire mieux et mutualiser les retours d'expérience? Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup du tri à la source des biodéchets avec une obligation réglementaire.
Alors, biodéchets, c'est quoi? Tout ce qui est déchets de jardin, compost?
Alors, les biodéchets, c'est vraiment quand on est dans la maison et qu'on fait à manger ou qu'il y a des restes de repas. C'est les biodéchets, c'est ce qu'on appelle les déchets de cuisine et de table. Et aujourd'hui, il y a une obligation réglementaire de mettre une solution pour chaque citoyen. Du coup, on intervient auprès de chaque collectivité pour faire des visites, des retours d'expérience sur ce qui se fait déjà. Donc ça, c'est une première mission.
Et ça, c'est obligatoire maintenant, c'est ça, les collecter à part? Enfin, ça va être obligatoire?
Ça va être obligatoire au 1er janvier 2024, d'avoir au moins une solution, mais qui peut être du compostage d'ailleurs. Une des deuxièmes missions du CIMED, c'est de faire des études et des projets départementaux. Par exemple, là, on a animé un défi jardin zéro déchet vert pendant toute l'année 2022. On a accompagné 100 familles.
La Comcom de Crozon, Presqu'île de Crozon et de Maritime,
voilà.
Je crois en compter.
Ouais. Exactement. Donc, il y avait plus d'une dizaine de collectivités du Finistère. Donc, on mutualise des moyens. Au lieu que chacun le fasse de son côté, il y avait un agent du CIMED qui s'est chargé de le co-animer, de financer, de faire de la communication. Ça, c'est une des grosses missions du CIMED.
C'est fini, ça, ce défi?
Ouais, ce défi vient de se terminer. Là, on est en train de faire les événements de clôture en ce moment. Et l'année prochaine, on va essaimer ces résultats. Et notamment de voir que ces 105 familles ont réussi à relever ce défi de ne plus aller en déchetterie et de se dire, les déchets verts, en fait, c'est une ressource.
C'est ça, ouais. Et c'était évidemment des gens qui avaient un jardin, je suppose, non?
Oui. C'est effectivement la condition, c'était d'avoir un jardin. Oui. Mais de toute taille, il y avait des jardins de lotissement de 100 mètres carrés et des très grands jardins de plus de 2000 mètres carrés. Voilà, il y avait vraiment de tout. Et comment, à chaque échelle, quelle que soit la taille du jardin, comment est-ce qu'on peut se dire, est-ce que la meilleure solution, c'est de le garder chez soi et d'en faire une ressource, ou d'aller en déchetterie? Aujourd'hui, très clairement, tous ces citoyens et citoyennes qu'on a accompagnés disent, c'est impressionnant, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos déchets verts.
C'était une question de formation, quoi, en fait.
Ouais. C'est là où on voit que c'est vraiment une question de formation et d'avoir accès à des ressources, là, pour le coup, de se dire, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et il y a vraiment des trucs très, très simples qu'on va partager.
On va y revenir tout à l'heure, vous nous en donnerez quelques-uns. Pour finir sur les missions du CIMED.
Et une autre mission, c'est vraiment de faire de la mutualisation, là aussi, d'outils. Par exemple, au lieu que chacun édite son stop pub ou un guide sur justement la réduction des déchets verts en déchetterie, on mutualise et on fait une seule consultation et au lieu que chacun aille voir sa propre imprimerie, on fait un groupement de commandes et ça permet de... par exemple, il y a une exposition d'ailleurs qui est devant l'améthyste à Crozon en ce moment, qui s'appelle 305 Impact. C'est le CIMED qui l'a mutualisé à l'ensemble du département. On a eu une réduction de 50% du prix unitaire.
Donc toutes les Comcom peuvent récupérer cette exposition à un moment ou un autre?
Sur les 3 ans qu'on l'a. Donc là, c'est pendant tout le mois de novembre sur Crozon. C'était sur Landerneau l'année dernière. Ça va aller sur Brest. Ça va faire le tour du Finistère là pendant 3 ans.
Et au fait, toutes les communautés de communes sont adhérentes du CIMED?
Toutes les communautés de communes sont adhérentes.
Ouais. Et c'est assez unique, ce type de fonctionnement. Est-ce qu'il y a d'autres CIMED dans d'autres départements?
Il n'y a pas d'autres CIMED. En fait, une des spécificités du CIMED, c'est qu'on n'a pas de collecte, de compétences collecte ni traitement. J'ai tendance à dire qu'il y a d'autres CIMED dans d'autres départements, mais par contre, qui en général ont aussi la compétence, notamment traitement. Et c'est le syndicat de traitement qui fait un peu ce rôle qu'elle CIMED. Mais d'avoir vraiment que cette compétence études, accompagnement, mutualisation, c'est assez unique.
Et donc, vous proposez peut-être des formations aussi, pas vraiment aux citoyens, mais plutôt aux élus. Enfin, comment...
On fait beaucoup de retours d'expérience, comme là, je pouvais le dire sur le trait à la source, mais on en fait aussi sur toutes les thématiques. Et là, par exemple, on en a fait une avec les élus sur la communication engageante. Comment mieux communiquer? ce qui n'est pas simple, là, on va en refaire une sur la communication responsable, mais on en fait sur toutes les thématiques. Là, on va en faire une sur l'optimisation des coûts du service public l'année prochaine, sur le réemploi.
Et c'est que pour les élus, hein. Vous n'êtes pas quand même organisme de formation pour des agents, pas encore, quoi.
Non, par contre, là aussi, on mutualise. Là, par exemple, on a, au lieu que chacun aille, par exemple, pour devenir guide composteur, parce que c'est un des métiers en forte expansion, on va dire, dans les collectivités, comment accompagner les citoyens et les citoyennes à composter? Voilà, c'est simple et compliqué à la fois de composter.
Oui, le compost, c'est assez difficile, ouais.
Donc là, on a mutualisé une formation, on a fait appel à des formateurs pour que chaque... agent de collectivité qui voulait se former, au lieu que ce soit à Vannes ou à Rennes, ce qui est classique, là on l'a fait à Brest et à Concarneau. Donc pareil, on a relocalisé en mutualisant, et pareil, on a fait des économies aussi en faisant venir les formateurs, on a réussi à que ce soit moins cher aussi pour les collectivités.
Et est-ce qu'il vous arrive de travailler avec d'autres associations qui sont un peu sur le même créneau que vous? Enfin, je pensais à une association avec laquelle Radio Évasion travaille régulièrement, c'est Brued'Aid, c'est-à-dire les collectivités de Bretagne qui sont orientées vraiment développement durable depuis longtemps, parce que eux aussi ils ont des retours d'expérience, ils travaillent comme ça.
Oui, effectivement. Alors, à l'heure actuelle, on n'a encore jamais travaillé avec Brued'Aid spécifiquement, mais c'est dans notre feuille de route, parce que notamment, on va travailler sur la commande publique durable et sur le bâtiment durable. Et effectivement, très clairement, Brued'Aid, pour nous, est fléché. Et pareil, là, on est en train de travailler sur un projet sur comment mieux mettre en avant les retours d'expérience de collectivités sur tout un panel de transition écologique de manière générale. Et clairement, Brued'Aid, pour nous, c'est un acteur identifié. On travaille aussi avec les dirigeants responsables de l'Ouest, sur le volet entreprise, et beaucoup d'associations aussi, par exemple de consommateurs, la CLCV ou UFC Que Choisir sont même membres associés du CIMED. Et là, on a fait notre comité de pilotage à Châtelain la semaine dernière, et il y a de nombreuses associations ou entreprises qu'on invite et qui participent à nos travaux, parce qu'effectivement, on a une grosse vocation de comment mieux diffuser ce qui se fait déjà, en fait. Parce qu'il y a, et je pense que vous en êtes très bien placé pour le savoir, il y a un nombre d'expériences. On a tendance à penser que les solutions ne sont pas forcément inventées, mais à mieux diffuser.
Oui, c'est ça. Ouais, on ne va pas réinventer le fil à couper de beurre, comme on dit. En fait, donc ces retours d'expérience-là, j'imagine qu'il y a des nouveaux sujets qui surgissent, notamment l'économie circulaire. Enfin, c'est un thème qui commence à devenir tendance, mais ce n'est pas qu'une tendance. Hein, ça, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que le CIMED s'empare de ça?
Comment le CIMED s'empare de l'économie circulaire? De différentes manières. En fait, il y a 7 piliers dans l'économie circulaire. C'est quelque chose de très vaste. Et le premier principe, effectivement, c'est de comment est-ce qu'on peut, en fait, faire moins mais mieux, que ce soit en ressources humaines, en ressources physiques. Et donc nous, notre premier travail, c'est effectivement déjà de mettre tout le monde autour de la table, et quand on prend une problématique, de ne pas être isolé, parce que des fois, une bonne solution, par exemple sur la réduction de l'eau, peut être une mauvaise solution pour l'énergie. Là, par exemple, on le voit par exemple avec le recyclage actuellement, avec la hausse des coûts énergétiques, ça peut, l'équilibre financier, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire le plus efficace possible. Donc là, on est en train de travailler avec les différents acteurs concernés, et notamment les dirigeants responsables de l'Ouest et des collectivités, notamment les chargés de développement économique, sur comment est-ce qu'on peut mieux percevoir l'économie circulaire, mieux faire rentrer ces préceptes, et notamment qui est de faire moins et mieux.
D'accord. Et alors les déchets, évidemment, citoyens lambda, on pense à nos poubelles, mais en fait, c'est pas ça les déchets, on est d'accord. Vous avez évoqué l'habitat, vous avez évoqué les entreprises. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit panel des déchets finistériens? En gros, c'est quoi les déchets? Je sais pas si vous avez des chiffres, mais des proportions en gros, quoi.
Alors déjà, effectivement, le service public, parce que nous, on est avant tout, effectivement, c'est les collectivités. Donc les déchets du service public, aujourd'hui, c'est 700 000 tonnes de déchets par an. Si on devait les répartir, il y a à peu près 200 000 tonnes d'ordures ménagères, la poubelle marron, la poubelle noire, qui dans le Finistère finit dans des usines de valorisation énergétique. Il y en a 4 dans le Finistère.
Juste de la chaleur, en gros, quoi.
Qui font de la chaleur et de l'électricité, suivant les localisations. Après, il y a à peu près 100 000 tonnes de recyclables issus de la poubelle jaune, du sac jaune, et qui vont dans les 3 centres de tri finistériens et costa-armoricains, dont le verre. C'est à peu près 40 000 tonnes de verre et 60 000 tonnes d'emballage, papier, carton et plastique.
Oui, c'est vrai que c'est pas forcément dans la poubelle jaune.
Le verre, c'est à côté, mais ça fait partie de ces 100 000. D'accord. Et après, on a 400 000 tonnes de déchets en déchetterie, dont 200 000 tonnes de déchets verts.
Ah oui, là, on voit la proportion, quoi.
Voilà, et après, il y a tous les déchets des industriels.
Ben oui.
Et les déchets du bâtiment qui sont, alors, déchets industriels et commerciaux, on dit que c'est à peu près 200-300 000 tonnes. Et après, là, j'aurais pas le chiffre, mais il est très impressionnant. C'est le déchet du bâtiment. Et les travaux publics qui, et notamment, en fait, c'est tout ce qui est travaux publics, très clairement, c'est la plus grosse part. Tout ce qui est travaux d'aménagement, travaux routiers, c'est la plus grosse part. J'aurais pas le chiffre, mais on parle en millions de tonnes.
Et là, c'est pas vraiment les communes qui gèrent, si, quand même, parce que c'est elles qui installent des plateformes pour récolter ces déchets-là.
Il y a deux choses. La très grande partie échappe au service public, et c'est normal parce que le service public, sa mission première, c'est les déchets des ménages. C'est optionnel les déchets des professionnels. Donc notamment les déchets de travaux publics, nous on ne les voit pas. D'accord. Par contre, on est donneurs d'ordre. Ce sont des collectivités qui font les marchés de travaux, de voiries. Donc là, on a par contre un rôle dans la commande qu'on passe. Est-ce qu'on veut du réemploi? Est-ce qu'on veut du recyclage? Quels matériaux on veut dans la route? Voilà, là, il y a des vrais choix stratégiques. Par contre, après, c'est vraiment les organismes privés qui s'organisent pour mettre en place l'offre. Pareil pour le bâtiment. Brudet le montre très bien. Là aussi, on a un vrai rôle à jouer dans quel type de bâtiment on veut, quel matériau. Est-ce qu'on veut du matériau biosourcé? Est-ce qu'on veut des matériaux de réemploi? Est-ce qu'on veut des matériaux recyclés?
Oui, parce qu'on pense déjà des constructions pour l'avenir. Quoi. Ouais.
De plus en plus, aujourd'hui, un bâtiment, c'est l'avenir. Il y en a qui le font déjà. On pense la déconstruction lors de la construction.
Donc, on lit en fait en toile de fond qu'il y a quand même quelques spécificités finistériennes, des déchets finistériens, c'est ça? Beaucoup de déchets verts, déjà.
Oui. Ah, ça, c'est une des problématiques et en même temps une ressource. C'est qu'effectivement, avec le climat qu'on a, doux et humide, bah les végétaux adorent. Effectivement, du coup, on en a énormément. On a historiquement, on est un département qui a massivement investi dans des déchetteries très tôt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Finistériens et Finistériennes ont très bien compris ce qu'était une déchetterie et du coup l'utilisent fortement, que ce soit pour les déchets verts et autres déchets. Nous, ce qu'on essaye de dire aujourd'hui, c'est que oui, la déchetterie est un bon geste, parce que nous, on en fait du compost. Voilà, on produit à peu près 150 000 tonnes de compost, entre 130
000... Pour les déchets verts, en tout cas.
Pour les déchets verts. Mais, effectivement, c'est quand même des trajets. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que les particuliers, après, vont racheter du compost, du broyat, chez Gamme Vert et autres, sans les nommer, les différentes enseignes de bricolage, de jardinage, alors même qu'ils avaient une ressource qui aurait pu leur apporter exactement la même chose. Donc aujourd'hui, on essaye de les former, de les informer sur ces pratiques, potentiellement, ils peuvent mieux faire, et c'est un gain d'argent, un gain de temps, parce qu'il faut y aller à la déchetterie, il faut remplir la remorque. Alors même qu'il y a des solutions, faut avoir une remorque. Alors qu'il y a des solutions très pratico-pratiques et on est vraiment bluffé par le défi qu'on a fait. C'est qu'aujourd'hui, on a des citoyens qui vont chez les voisins récupérer les déchets verts parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'en ont pas assez.
Moi-même, je vais chercher la tonte de mes voisins.
Voilà, et c'est vraiment redoutable aujourd'hui. C'est une vraie ressource, notamment quand on a un potager, quand on a des haies fruitières. Récupérer les végétaux de ses voisins, c'est...
Il y a quand même un problème. Si on est sur, justement, récupérer les déchets verts de son jardin pour faire du broyat, il faut une broyeuse. Et ça, ce n'est pas forcément facile selon l'endroit où on habite. Là-dessus, j'imagine que les élus ont dû vous dire des trucs.
Il y a plein de choses. Alors déjà, les toutes petites branches, une tondeuse suffit. Il n'y a pas besoin d'un broyeur. Après, c'est quand on passe effectivement les branches supérieures à 1 à 2 cm. Effectivement, là, il faut des broyeurs. Effectivement, là, il y a plein de choses qui se font.
Il y a des communes qui achètent des broyeuses municipales qu'elles font tourner dans les quartiers.
Il y en a qui font ça. Il y en a qui font aussi des bons de location, qui subventionnent la location de broyeurs, soit l'achat, soit la location. Il y a un peu de tout et ça dépend vraiment des collectivités.
Et pour en revenir aux spécificités du Finistère, si on a beaucoup de déchets verts, c'est aussi parce qu'on a, c'est la structure de l'habitat, on a beaucoup de jardins. Par rapport à d'autres départements, on a beaucoup d'habitats individuels aussi, c'est ça.
Par rapport notamment quand on voit même à l'échelle bretonne, où on est vraiment les champions, et notamment c'est le nord-ouest Finistère, même si on regarde très localement, on a quand même une spécificité climatique au-delà du jardin, parce que même dans le sud de la France, il y a beaucoup d'habitats individuels. Pour autant, le climat fait qu'ils ont beaucoup moins de déchets verts. Donc il y a vraiment une raison climatique au-delà de l'habitat. Mais effectivement, on reste un département, entre guillemets, très rural, globalement.
Et puis bon, les choix aussi qu'on a fait, peut-être des végétaux, parce qu'il y a des végétaux qui poussent très vite.
Ça, on a des choix historiques.
Dites-nous ce qu'il ne faut plus acheter.
Notamment le laurier palme, on avait un qu'on devait cibler. Parce qu'effectivement, qui dit pousse rapide pour, entre guillemets, se protéger de ses voisins ou en tout cas faire un vase clos, il se poussera toujours vite.
Ouais, il va pas s'arrêter.
Donc, vaut mieux
profiter
effectivement d'une pousse lente qui va peut-être mettre 2 ans ou 3 ans de plus. Mais c'est pas grand-chose sur la vie d'une haie, plutôt que d'avoir des pousses vite où laurier palme, c'est 3 à 4 coupes par an, notamment avec le climat dans ce moment. Alors qu'il y a des essences, une coupe par an suffit très largement.
Et en plus, c'est une espèce envahissante, comme on dit, ça pousse partout après, dans la forêt.
Ouais.
Et donc ça, c'est une problématique. Est-ce qu'il y a d'autres, les élus, les retours d'expérience qu'ils vous font, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ressort?
Un point qui ressort fortement, c'est la très très forte dynamique sur le réemploi dans le Finistère. On est vraiment un département aujourd'hui très très bien doté en recyclerie, ressourcerie, et historiquement on avait des recycleries, on va dire, généralistes sur la maison. Avec tous les objets de la maison, les meubles, les livres,
la vaisselle,
l'électroménager. Et maintenant, justement, on en voit des spécialisés arriver. Là, il y a Envie de Zeux qui vient de se créer sur Brest, sur l'électroménager. Il y en a qui se spécialisent sur le bricolage pour avoir des matériaux de bricolage, du bois, de la peinture. Là, il y en a plusieurs qui ouvrent.
Matériaux de récupération, quoi.
Matériaux de récupération, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai tendance à penser que dans 10 ans, il y en aura une dans chaque communauté de communes. Là, il y a le repère sur Morlaix, il y a Cap Solidarité qui vient d'ouvrir son comptoir là-dessus, sur Plozévette. Là, on a un vrai enjeu sur le bâtiment à mieux les déconstruire et à récupérer énormément de matériaux, notamment le bois, les portes, la petite quincaillerie. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et même les particuliers.
Parce que là, vous disiez ce type de recyclage. recyclerie est plutôt orientée pour les professionnels, c'est ça? Enfin, les recycleries spécialisées?
Non, elles sont toutes pour les particuliers, mais il y a tant le gisement des professionnels, parce que effectivement, on déconstruit des portes, des fenêtres.
Oui, tout à fait.
Quand on voit le nombre de fenêtres, c'est plus de 100 000 fenêtres chaque année qui sont démonté dans le Finistère.
Rénovation thermique, notamment.
Voilà, il y a des rénovations thermiques, mais pas que. Et pour autant, là, il y a une initiative qui s'est montée du côté de Landerneau avec Val-Ouest pour les recycler et ou les réemployer. Le gisement, on parle de plus de 100 000 fenêtres par an dans le Finistère.
Ouais,
voilà. Et aujourd'hui, qui finissaient l'enfouissement.
Ah bon?
Et qui, là, sont en train de...
qui n'étaient même pas recyclés?
Ah non, c'était pas recyclé. Non, non.
Alors qu'il y a du verre, quand même.
Il y a du verre, du PVC, de l'alu. Bah, les alus, on les voit rarement.
Oui,
et
ouais.
Du bois. Voilà.
Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui... Donc, vous avez un site internet aussi qu'on n'a pas mentionné, qui s'appelle 6 mètres. Alors, c'est plutôt destiné aux particuliers, c'est ça?
Oui, c'est un site grand public qui a pour vocation à montrer que chaque geste compte et qu'il y a déjà énormément d'initiatives finistériennes et qu'on peut venir y chercher des trucs et astuces de finistériens, parce que c'est vraiment que des interviews de finistériens et de finistériennes, qu'ils soient particuliers ou professionnels. On met aussi en avant des initiatives professionnelles pour que si on a envie de faire un nouveau pas dans la consommation responsable, on puisse y trouver une astuce sur acheter en vrac, faire soi-même. Voilà, il y a aujourd'hui, je sais pas, entre 30 et 50 portraits et trucs et astuces. On y trouve aussi des vidéos, comme là, on fait une série Rendez-vous en Terre Responsable, où des personnalités finistériennes ont été découvrir des métiers du déchet, que ce soit le reaper qui est derrière la benne, l'agent de déchetterie, pour voir un peu autrement aussi ces métiers-là. Et c'est vraiment une découverte, tant pour la personnalité que pour l'agent.
Il y a des nouveaux métiers qui ont surgi, liés aux déchets. Vous en parlez un tout petit peu.
Recyclerie, c'est un métier qui se développe de plus en plus, les métiers en recyclerie. Guide composteur, maître composteur aussi pour accompagner les citoyens et citoyennes. Il y a vraiment des nouveaux métiers qui apparaissent. Ambassadeur de la prévention aussi. Comment justement, là en pleine SERD, justement, c'est effectivement une thématique forte. Voilà, donc s'y mettre, c'est ça. C'est comment est-ce que, si on souhaite passer à l'action et voir ce qui se passe dans le Finistère et qui a fait quoi, on peut trouver des solutions.
Et la semaine européenne de réduction des déchets, en ce moment, comment est-ce que vous vous placez dedans? Enfin, vous avez vous-même le CIMED à lancer des actions ou vous relayez plutôt?
Nous, on est plutôt relais, effectivement. Vraiment, ça, c'est un positionnement qui a été acté avec les communautés de communes, c'est que le CIMED 29 n'est pas directement sur le terrain. Nous, on fournit des éléments pour les collectivités qui sont sur le terrain. Et donc, sur la SERD, typiquement, là, on communique sur la SERD, sur les actions que mènent les différentes collectivités sur le terrain.
Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous en pensez, d'ailleurs, de ces SERD? Est-ce que vous voyez, depuis le CIMED, des effets positifs? Est-ce que ça marche?
Est-ce que ça marche? c'est jamais simple à dire. Ce qu'on voit, c'est que... il y a toujours une dynamique des collectivités et des événements. Il y en a là pendant 8 jours sur l'ensemble des communautés de communes, ou presque. Il y a toujours un certain engouement des citoyens pour des temps forts, en fait. Ça permet de focaliser pendant une semaine, tant nous, et ça fait un effet masse et d'une meilleure visibilité des actions qu'on peut mener au quotidien. Là, il y a des expos, il y a des ateliers, il y a des brocantes, il y a un peu de tout là sur le territoire. Il y a même des films qui sont passés. Et les collectivités le refont d'année en année parce qu'effectivement, ça fonctionne.
Oui, on est quand même des bons trieurs, je crois. Enfin, notamment, nous les Finistériens.
Ouais. Parmi les champions de France effectivement ce geste de tri qui est bien ancré effectivement par rapport à d'autres collectivités en France. Effectivement, le Finistère est, dans les 10 meilleurs départements de France.
Mais enfin, on a quand même encore beaucoup de travail à faire.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on récupère globalement 100 kilos de recyclables par an et par habitant. Il y en a encore la même quantité dans la poubelle. C'est fou, alors qu'on est parmi les meilleurs de France.
Oui, c'est ça.
Ça reste un chiffre, si on parle de tonnes, c'est 100 000 tonnes. Voilà. C'est 100 000 tonnes qui aujourd'hui finissent dans des unités de valorisation énergétique, alors même qu'effectivement, on pourrait les recycler.
Mais le recyclage, justement, je ne sais pas si c'est tellement, vous pouvez tellement m'apporter des informations là-dessus, mais on dit que finalement, c'est, même quand on met dans son bac jaune, c'est pas si bien trié, c'est pas si bien récupéré que ça, c'est pas si bien recyclé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Bah, que c'est une fausse information.
D'accord.
C'est la première chose. Effectivement, quand sur 100 kilos que vous emmenez dans le centre de tri, il y a 20% d'erreurs de tri. En moyenne, c'est à peu près ça. Du textile. On retrouve beaucoup de textile. On retrouve du verre. On retrouve des couches. Et après, on retrouve des déchets très exotiques. On vous invite. Un centre de tri n'est pas une déchetterie. Un centre de tri, c'est vraiment pour les déchets d'emballage et les papiers. Et aujourd'hui, bah voilà, il y a dans ces 20%, il y a, et ça pose pas mal de soucis parce que ces centres de tri sont pas adaptés pour ça, et ça entraîne des problématiques de gestion au quotidien pour les agents qui, parce que faut le savoir, hein, il y a plus de 100 personnes qui travaillent dans ces centres de tri et qui voient vraiment les déchets passer devant eux. Donc quand vous mettez des déchets style couche lavable, bah couche et compagnie, c'est vraiment pas adéquat. Et notamment, il y a eu toute la période Covid avec les masques. Et ah autres
oui, voilà,
tests qui
vrai.
Passaient,
ah
c'était
ouais.
vraiment pas le lieu. Et après, sur ces 80%
qui sont
recyclés, il y a tout ce qui est papier. Les papiers, aujourd'hui, sont tous recyclés chez Omnipack Group. Donc, c'est une usine à Aller qui fabrique des boîtes à eux. Nos cartons, l'ensemble des cartons d'emballage, que ce soit de gâteaux, de bière et autres emballages, eux, ils vont du côté de Tours et ils sont recyclés, ils refont du carton. Tout ce qui est métaux sont aujourd'hui envoyés en Espagne et au Portugal. On en refait des fers à béton. Et tout ce qui est aluminium repart dans le nord de la France. On refait de l'aluminium avec. On refait des canettes, principalement. Et après, il y a toute la vaste question du plastique.
Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est le plus difficile, on dit. Ouais.
Dans le plastique, effectivement, aujourd'hui, on a des consignes de tri élargies qui fait que vous pouvez mettre tous les types de plastique d'emballage.
Que ce
soit du jambon, pot de yaourt.
Ouais.
Aujourd'hui, sur 100% des plastiques qui sont mis dans le centre de tri, il y en a 75% qui finissent effectivement dans des filières de recyclage. Aujourd'hui, on a 25% des plastiques dont effectivement on ne sait pas quoi en faire à date, mais ça évolue perpétuellement en fait. À titre d'exemple, il y avait mis sur le marché un nouveau type de bouteille de lait. Vous ne l'avez pas vu que c'était un nouvel emballage, mais nous on l'a vu dans les centres de tri. C'était une nouvelle résine. Pendant 3 ans, ça ne savait pas quoi en faire. Ça a fini en valorisation énergétique. Aujourd'hui, ils ont trouvé la solution de recyclage. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a été dit aux usagers, tous vos déchets se trient, plastique. Et on avance au fur et à mesure vers 100% de valorisation en recyclage. Et sur les 25% et même sur les 75% qui sont recyclés, ce qui est important de savoir, c'est que tous les déchets finistériens finissent dans des usines de recyclage ou des usines de valorisation énergétique en Europe. Il y a effectivement une problématique de déchets qui finissent en Asie. C'est une réalité.
Mais ce n'est pas nos poubelles, quoi.
Mais ce ne sont pas nos poubelles, parce que le Finistère a fait le choix de le confier à un organisme qui ne va pas dans ces pays-là. Effectivement, il y a d'autres collectivités françaises qui ont fait un autre choix, et même celles qui ont fait ce choix-là, ça reste une faible proportion. Par contre, ça nous pose beaucoup de tort, parce qu'effectivement, il y a eu des reportages à la télé, notamment, qui ont des effets contre-productif, parce qu'on se dit du coup ça sert à rien qu'on trie. Non, ça reste une infime fraction et le Finistère n'est pas concerné. Pour le coup, nous on peut vous fournir fiche à l'appui le tracé de où vont nos plastiques, et majoritairement aujourd'hui c'est de la chimie, hein, le plastique c'est majoritairement l'Est de la France et l'Allemagne. Voilà.
Eh bien, on vous croit. Et on vous remercie, Vincent Garnier du CIMED, d'être venu nous expliquer tout ça. À bientôt, on peut réécouter bien sûr cette émission sur Radio Évasion.
Merci.